Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 27 septembre. Nous parlerons du projet d'amplification de la zone à faible émission, la ZFE. Un projet qui a été voté hier par la métropole avec certaines critiques. À noter également Cédric Van Stevendel, le maire d'Ille-Orban, qui annonce avoir saisi la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes pour qu'elle enquête sur les manquements caractérisés à la réglementation en matière d'encadrement des loyers et d'établissement de complément de loyer. Cet encadrement des loyers est effectif à Ville-Urbaine depuis novembre 2021, mais les contrôles seraient inefficaces. Nous reviendrons sur le Radiant Bellevue de Caluire qui accueille en cette fin de semaine les entretiens de Caluire sur les notions de légitimité. Le maire de Francheville veut la mort des grandes voisines, qu'il démissionne. Les élus écologistes de la commune sont vent debout contre le maire, Michel Rantonnet. C'est ce soir que sera inauguré le Marchigard rénové. La rénovation aura duré 4 ans. Explication dans cette édition avec Nathalie Perrin-Gilbert, l'adjointe à la culture.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le projet d'amplification de la zone à faible émission a donc été voté hier à la métropole. Le plan prévoit d'exclure du périmètre actuel et central de la ZFE les véhicules critères 4 au plus tard le 1er janvier 2024, les critères 3 au 1er janvier 2025 et les critères 2 au 1er janvier 2026. Les critères 5 et non classés seront bannis dès le 1er janvier 2023. Un second périmètre élargi offre un délai étendu d'un an à chacune des étapes. Le périmètre élargi inclura les secteurs de Ville-Urbaine, Bron et Vénissieux, situés à l'extérieur du périphérique Laurent Bonnevet, ainsi que Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Oulin, La Mulatière, Sainte-Foy-lès-Lyon, Satonnet-Camp, Fontaine-sur-Saône, Rieux, Vaux-en-Velin, Saint-Fons, Chassieux, Saint-Priest, Décines, Mions et Corbas. Les axes rapides M6, M7, périphérique Laurent Bonnevet sont concernés. En revanche, ce périmètre élargi ne concerne pas les critères 2. De nombreux groupes ont toutefois estimé hier à la métropole que le compte n'y était pas en matière de justesse sociale via les aides et les dérogations possibles ou bien en matière territoriale. Certains ont dénoncé les ambitions encore faibles à leurs yeux en matière de transport en commun. Le conseiller métropolitain de Lyon qui a nommé Florestan Grouf au poste de vice-président à la vie associative et aux politiques sportives. Il remplace l'élu écologiste Yves Benita qui s'était retiré de l'exécutif pour raisons personnelles. Cédric Van Stevendel annonce avoir saisi la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes pour qu'elle enquête sur les manquements caractérisés à la réglementation en matière d'encadrement des loyers. Le maire d'Ille-Urbaine a également saisi la Chambre de Commerce pour obtenir la radiation de la carte professionnelle des contrevenants ainsi identifiés. L'encadrement des loyers est entré en vigueur à Lyon et Ville-Urbaine le 1er novembre 2021. La métropole de Lyon a recruté des agents susceptibles de vérifier la qualité et le niveau de loyer des logements proposés à la location. Seul hic, les locataires ne les solliciteraient que très rarement. Les particuliers ou les agences immobilières qui s'affranchissent de la réglementation en matière d'encadrement des loyers doivent être systématiquement sanctionnés, conclut le maire de Ville-Urbaine.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Le Radiant Bellevue de Caluire accueille en cette fin de semaine les entretiens Jean Moulin. L'événement propose une interrogation collective sur les notions de légitimité. Explication avec vous Gaël Bossier.
Les entretiens de Caluire et Cuire Jean Moulin existent depuis l'année 2016. Le mois de septembre s'ouvre sur une réflexion autour de valeurs de la République. Ils se dérouleront du 29 septembre au 1er octobre. On écoute Robert Thévenot revenir sur l'origine de ces rencontres.
Je suis adjoint à la mairie de Caluire et je suis en charge de la préparation et de l'organisation des entretiens Jean Moulin depuis leur origine.
C'est la 7e édition de ces rencontres. L'objectif de départ et l'objectif d'aujourd'hui.
L'objectif de départ, c'était, il était un triple. Il était d'honorer la mémoire de Jean Moulin, hein, puisqu'il est lié à l'histoire de Caluire. C'était aussi d'honorer la mémoire des victimes des attentats du Bataclan et d'engager une réflexion autour des valeurs de la République. Et aujourd'hui, c'est la suite de ce troisième objectif, c'est-à-dire on organise chaque année une réflexion autour des valeurs de la République.
Au programme cette année, une thématique au pluriel, légitimer, Nous constatons depuis plusieurs années, à travers les différentes crises que nous traversons, une défiance parfois virulente vis-à-vis des institutions, des médias, mais aussi de la parole portée par la communauté scientifique. À travers cette édition, les causes de cette défiance seront observées et la notion de légitimité interrogée. Pour ouvrir les entretiens, la musique sera convoquée avec l'Orchestre symphonique Rhône-Alpes Auvergne, avec un programme intitulé « Musique pas si innocente ». Le chef d'orchestre Laurent Pillot évoque pour nous cette soirée du jeudi 29 septembre.
Je vais donc diriger ce concert avec l'Orchestre symphonique Rhône-Alpes Auvergne, qui est un orchestre de 75 musiciens. Et l'idée, c'est de se dire, mais comment la musique peut légitimer une action? J'allais dire l'exemple le plus courant, c'est la marche militaire. Pourquoi une marche militaire est entraînante? C'est pas juste parce que c'est joli qu'elle soit entraînante, c'est simplement parce que ça donne envie à des soldats de se mettre en action et d'aller à la guerre. Ils n'ont pas forcément envie d'y aller, on va dire, mais cette musique les entraîne à ne pas avoir de doute, au fond, et de suivre la masse et, le rythme entraînant, le rythme de marche, hein, c'est pour ça que c'est une marche, parce qu'ils partaient en marchant. Ces marches militaires sont, j'allais dire, dans le monde entier les mêmes, à quelques différences près. Et donc voilà, donc j'ai articulé toutes les œuvres qu'on allait jouer d'après ce thème-là. Par exemple, nous allons jouer l'ouverture 1812 de Tchaïkovski, qui est une ouverture qui avait été écrite pour célébrer la victoire des Russes contre les Français, contre Napoléon. Et donc c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui a été jouée tous les ans, pendant très longtemps, en Russie, une sorte de légitimité par l'affect que provoque la musique de cette victoire. On y entend d'ailleurs dans cette œuvre des extraits de la Marseillaise. Et Tchaïkovski a rajouté des coups de canon à la fin de l'œuvre, et puis des cloches, une espèce de carillon. C'est une œuvre qui était souvent donnée en extérieur, donc les coups de canon sont très précisément écrits dans la partition, hein, ils ne viennent pas n'importe quand. Et quand on les joue en intérieur, ce que nous ferons au Radiant, ce sont évidemment des coups de canon enregistrés, des cloches enregistrées. C'est une manière de rappeler qu'il y a eu ce moment, la Russie a fait cette action, elle a gagné, et on rappelle par cet affect, par l'émotion que provoque la musique, ce qui s'est passé en fait.
La musique légitime un certain nombre de choses, mais aussi galvanise d'une forme peut-être de manipulation mentale.
Évidemment que le pouvoir émotionnel de la musique est gigantesque. Alors, j'allais dire, nous, en tant que musiciens, je ne le vois que comme une chose positive, bien évidemment. Après, quand on fait des recherches, nous allons jouer par exemple l'ouverture des maîtres chanteurs de Wagner, qui était un peu le morceau étendard du régime nazi pendant la guerre. Ça n'en reste pas moins une œuvre extraordinaire. Elle a servi de support pour une cause qui était moins extraordinaire et plus discutable, évidemment. Je citais tout à l'heure en discutant l'histoire de la publicité, par exemple. Parce que légitimer, c'est quoi? C'est se dire, le droit a dit que ça, c'est une bonne chose, ou alors ça peut être la morale qui a décidé, ou alors ça peut être la religion, je ne sais pas. Mais si vous écoutez une publicité de riz, par exemple, avec l'air de la Reine de la Nuit, vous entendez l'air de la Reine de la Nuit, extrêmement célèbre, avec les vocalistes, papapipapipapa. Donc, les gens entendent ça, il y a une partie de leur cerveau qui s'active, qui est heureux, ils voient le riz, ils associent les deux, et ils se disent, tout à fait inconsciemment, ce riz doit être formidable, je vais l'acheter. C'est un peu ça.
C'est une forme de manipulation.
Oui, je ne sais pas. En tout cas, visiblement, la musique choisie a été extrêmement bien choisie. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça renforce l'idée que la musique n'est pas qu'une chose abstraite qu'on trouve jolie de loin. Ça éveille en nous des zones beaucoup plus profondes. Alors, on le sait, hein, j'enfonce des portes ouvertes, hein, évidemment. En se posant la question, en réfléchissant, ce qui était passionnant sur ce thème-là, on se dit, ah oui, quand même, pour que toutes ces œuvres aient eu tant d'importance, c'est que véritablement, ça va chercher très loin en nous.
Les journées du vendredi 30 et du samedi 1er octobre seront consacrées aux débats, tables rondes et conférences sur la thématique des légitimités. De nombreux intervenants, dont l'historien et sociologue Pierre Rozon-Vallon, viendront nous éclairer sur les mécanismes qui conduisent les citoyens à remettre en question la légitimité et nous proposer des pistes de réflexion sur la mécanique du doute et son corollaire, le complotisme. Rendez-vous dès maintenant pour réserver vos places pour cet événement gratuit sur le site du Radiant Bellevue, www.radiant-bellevue.com. Franceinter.fr.
Merci Gaëlle. Le maire de Francheville veut la mort des grandes voisines, qu'il démissionne. Les élus écologistes de la commune sont vent debout contre le maire Michel Rantonnet. L'opposition accuse le premier magistrat de bloquer des projets dans la ville et notamment l'installation d'un centre d'hébergement d'urgence dans l'ancien hôpital Charial, la célébration de l'ouverture du site, le festival des solidarités internationales ou encore des concerts de musique ont dû être annulés. Les écologistes dénoncent le refus du maire de signer des permis de construire d'aménagement du site, un site qui héberge déjà 475 personnes réparties dans 5 centres gérés par 2 associations. Les lieux sont occupés à titre temporaire pour 3 ans, renouvelables une fois. Le projet de la métropole pour Charial n'est pas celui de la majorité municipale. Nous avions défendu l'implantation d'une maison de santé, se défend le maire Michel Rantonnet. Je ne démissionnerai pas pour faire plaisir aux écolos. Fin de citation. Remettre en cause ma légitimité, c'est remettre en cause ma présomption d'innocence. Les mots sont de Gaël Perdriot aux élus stéphanois qui réclament son départ. C'est d'ailleurs en plein conseil municipal. En aucun cas, le conseil municipal ne peut se transformer en tribunal. Je n'ai jamais vu cette vidéo et je n'en suis jamais servi contre Gilles Artigues. Je n'ai jamais détourné le moindre euro de la collectivité, a martelé Gaël Perdriot. Le maire LR de Saint-Étienne se dit victime d'un lynchage politique et médiatique et d'une chasse à l'homme. Monsieur Perdriot, partez, annoncé pourtant Lionel Boucher, adjoint UDI et proche de Gilles Artigues, victime présumée du chantage à la sextape. Malgré cette salve de critiques, Gaël Perdriot est resté droit dans ses bottes hier. Il reste donc maire de Saint-Étienne. La semaine dernière, il avait en revanche annoncé quitter la présidence de Saint-Étienne Métropole.
Lyon demain. Découverte.
C'est ce soir que sera inauguré le marché-gare. La rénovation du marché-gare aura duré 4 ans, au cours desquels les équipes ont dû investir d'autres lieux pour subsister. Mais le résultat est à la hauteur des attentes. Le marché-gare, nouvelle formule, s'est agrandi pour mieux s'inscrire dans le réseau culturel de la ville. Les explications avec Nathalie Perrin-Gilbert, l'adjointe à la culture.
On a une salle de concert, déjà d'une jauge de 400 places. C'est une jauge qui n'existait pas pour les musiques actuelles amplifiées sur le bassin lyonnais. Donc déjà, ça amène une nouvelle jauge et une jauge qui intéresse les artistes, les producteurs. C'est une salle avec une acoustique particulièrement adaptée, d'une grande qualité, avec des équipements vidéo, etc. Donc qui va permettre une diffusion de concerts de très très bonne qualité et on a finalement, on peut le dire, un équipement de pointe pour les musiques actuelles amplifiées. C'est une salle aussi qui va apporter, c'est un équipement qui va aussi apporter des possibilités de création, de répétition pour des artistes, y compris qui démarrent. On parlait du lien, par exemple, avec le labo des musiques actuelles du conservatoire. Une nouvelle salle, une petite scène qui a été créée, que nous appelons le kiosque, et qui va permettre à des artistes émergents de se confronter en réel à la scène, à un public avec une jauge, je dirais, bienveillante. Et donc, voilà, c'est un coup de pouce à ces artistes émergents, à ces jeunes professionnels. Donc, on a, avec le marché-gare, à la fois une salle pour la création, pour l'émergence, et puis une salle de très, très grande qualité pour la diffusion de concerts et de professionnels des musiques actuelles. Ça vient compléter l'offre du Périscope, qui est également une scène labellisée musique actuelle, qui se trouve à moins d'un kilomètre, enfin à quelques centaines de mètres, qui elle est plus spécialisée sur les musiques improvisées et le jazz, tandis que le marché-gare est plus sur les musiques actuelles amplifiées, le rock, le métal, y compris la chanson, le rap. Donc là, on a vraiment deux salles complémentaires sur un même quartier, Confluence, et Confluence s'affirme donc comme vraiment un quartier à forte valeur ajoutée artistique, musicale, jeune également, puisque alors on a un public assez divers dans les musiques actuelles, mais on sait qu'il y a quand même une prédominance des jeunes, d'un public jeune. Donc c'est important aussi pour un quartier comme Confluence de pouvoir s'appuyer sur des équipements culturels.
Qu'est-ce que vous attendez de la programmation qui va être donnée ici?
Une programmation de qualité qui fait parler de Lyon comme vraiment un territoire propice et ouvert aux musiques actuelles. Les musiques actuelles aujourd'hui, c'est une culture à part entière. C'est une culture qui a beaucoup de valeur et je suis fière que notre ville soit aux côtés des musiques actuelles grâce à des équipements comme par exemple le marché-gare.
Et puis la culture s'affirme aussi dans ce quartier qui était plutôt un quartier économique jusque-là.
Tout à fait. Alors c'est là où on peut faire un parallèle avec la Part-Dieu. Là, avec la Biennale d'art contemporain, on a vu la fresque qui s'est déployée à l'entrée de la gare Part-Dieu. On réfléchit beaucoup avec la direction de la SPL Part-Dieu à l'intégration urbaine de la bibliothèque, de l'auditorium, qui sont des grands équipements culturels. Et puis, on voit que sur Confluence, là également, la culture est fortement présente. Ça apporte vraiment une plus-value. Ça qualifie un quartier, ça brasse des publics différents, ça amène de la vie, ça évite un quartier qui aurait une unique fonction, soit de bureau, soit une fonction dortoir. On veut éviter les quartiers avec une seule fonction. Un quartier qui vit, c'est un quartier où les gens et où les fonctions se croisent. Moi, quand j'ai été maire du premier, j'aimais ce quartier aussi parce que c'était un quartier à la fois central, à la fois avec une vie de proximité. C'est ça, un quartier qui vit. Et la culture permet cette vie-là.
Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture à la ville de Lyon. Le marché Gare a aussi changé d'adresse. La place Hubert-Mounier, située devant l'ancien bâtiment Porsche, rend hommage au chanteur lyonnais de l'affaire Louis Stréau, décédé en 2016. L'Olympique lyonnais prépare son rendez-vous lensois. À partir de ce matin, l'équipe lyonnaise entre de plein pied dans la préparation du choc de dimanche soir à Lens. L'effectif de Peter Bosz va s'étoffer avec le retour progressif des internationaux et de plusieurs blessés. Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, voire Jérôme Boateng, pourraient réintégrer le groupe avant ce déplacement périlleux. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Passez une excellente journée.